Alors, la bibliothèque en vadrouille poursuit la découverte de la foire de l'édition de Bienne, où nous sommes arrêtés sur plusieurs stands. Et là, nous sommes derrière le stand des éditions d'en bas. Et nous rencontrons l'un des trois fondateurs des éditions, Jean-Richard. Bonsoir.
Alors, je précise, je ne suis pas fondateur. Voilà. Ma maison a été fondée en 1976 par Michel Glardon.
Voilà, c'est important.
Avec Ursula Gaïa, traductrice, Gilbert Musy, traducteur, et quatre autres personnes. Voilà. Et j'ai repris les éditions d'en bas en 2001, quand Michel Glardon a cessé son activité de responsable et animateur des éditions d'en bas. Donc ça fait depuis 2001 que je suis responsable des éditions.
Et avec donc Pascal Cottin et Antoine...
Pascal Cottin qui est arrivé il y a 4-5 ans maintenant, qui est responsable de la communication, de la promotion, de la représentation en librairie, et sur les réseaux sociaux des éditions d'en bas, et Antonin Gagné qui s'occupe essentiellement du travail de gestion de stock, de facturation, de comptabilité, et également membre du comité de lecture avec Pascal Cottin des éditions d'en bas.
Alors, donc après avoir fait le petit historique et l'organigramme entre guillemets de votre maison, peut-être nous donner un petit peu, c'est une question un peu rituelle pour tous les éditeurs qu'on rencontre aujourd'hui, la ligne éditoriale de
Alors, la ligne éditoriale, elle a repris au fond celle qui existait au moment où je suis arrivé, c'est-à-dire une maison d'édition qui cherche à publier des ouvrages que personne d'autre ne publiait à l'époque. Depuis, ça se fait. Alors, il y a un domaine qui est le domaine des récits de vie, des témoignages, qui a été un fort secteur des éditions d'en bas. Ça l'est toujours. Il y a peu, nous avons publié un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui lutte pour partir avec exit, c'est-à-dire le suicide assisté qui est autorisé en Suisse, et qui raconte les difficultés qu'elle a rencontrées vis-à-vis de sa mère qui a décidé de partir. Donc on publie des ouvrages qui parlent de la vie au quotidien des gens d'en bas. D'où justement le titre de la maison d'édition. On refuse une perspective panoptique sur le monde parce qu'on ne voit pas grand-chose quand on regarde depuis en haut. On essaie de voir depuis les racines ce qui s'y passe dans le monde. Et on a publié également des ouvrages qui sont des ouvrages vaudrois face à la police, face aux assurances, où dans ces ouvrages, les citoyens peuvent assumer et réassumer et se réapproprier leurs droits dans le monde quotidien dans lequel on vit. Un secteur d'histoire qui est essentiellement lié aux mouvements sociaux et à l'histoire du mouvement ouvrier. Donc là, c'est une tradition très ancienne dans les éditions d'en bas de publier des livres d'histoire qui concernent le mouvement ouvrier et les mouvements sociaux. Ensuite, un secteur de littérature qui a été en grande partie des traductions, parce que Ursula Gaïa et Gilbert Musy, parmi les fondateurs de la maison d'édition, elles sont traducteurs. Gilbert Musy nous a quittés. Et qui ont fortement influencé le choix littéraire, les choix littéraires de la maison d'édition en voulant publier des traductions d'auteurs qui venaient d'ailleurs de la Suisse mais qui assumaient une langue, soit du Tessin, l'italien, soit de l'allemand, comme langue d'écriture. Ensuite, vous avez un secteur d'édition française, francophone, mais beaucoup moins important. Alors moi j'ai renforcé beaucoup l'aspect des traductions et puis également avec une collection importante de poésie bilingue qu'on mène avec le Centre de traduction littéraire de Lausanne et le service de presse suisse qui chapeaute Vice-versa littérature, la revue littéraire en trois volumes, trois langues, allemand, italien, français, et le site web Vice-versa littérature.ch qui est vraiment la ressource sur les littératures suisses qui est le plus important lieu de ressources et de critiques de ce qui se passe dans le monde littéraire en Suisse, dans son ensemble.
Alors, si je puis me permettre pour compléter la découverte de votre catalogue, qui est important, puisqu'il y a derrière nous un almanach des 40 ans, c'est ça ?
Alors, il y a eu 40 ans des éditions d'en bas, qui ont été fêtées il y a presque 2 ans maintenant, avec un premier almanach, l'almanach des calendes, tout simplement parce que l'éditeur que je suis a pris un peu de retard par rapport à cet almanach. Il aurait dû sortir probablement en début d'année, et il est sorti plutôt en octobre de l'année. C'est pour ça que mes collègues se sont amusés en me faisant une petite farce en disant « ben voilà, c'est l'almanach des calendes grecques, comme on dit, pour qu'on repousse ». Et on a terminé les 40 ans, presque deux ans plus tard, avec l'Almanach des Révolutions.
Voilà, que j'ai
en 2017.
Que j'ai en main, voilà.
Et qui est sorti en octobre.
Qui est une année d'anniversaire, évidemment. Que...
Et on a pris goût à l'Almanach. Il faut dire que les éditions d'en bas, il y a bien des années en arrière, je crois dire presque 20 ans en arrière, avaient publié un ou deux almanachs. Et l'almanach est une forme de publication extrêmement libre qui vous permet de mettre plein de documents, d'éléments. Par exemple, vous avez dans cet almanach des Révolutions la date de naissance de quasiment tous les auteurs de Suisse romande, de Suisse alémanique. On a essayé de faire un travail. Vous avez le catalogue complet des éditions, qui ont été, livres qui ont été exposés lors des deux manifestations, début et la fin des 40 ans. Vous avez la totalité des ouvrages publiés aux éditions d'Orban. Et vous avez des textes, on sollicite des auteurs de tous bords pour nous proposer des textes, voir des images, des illustrations, des dessins, et puis aborder toutes sortes de sujets. Et puis on reprend également dans ces almanachs des ouvrages qui ont été publiés tout au long de ces 40 ans, avec des extraits qu'on reprend. Ça permet de remettre en avant un certain nombre de titres de notre catalogue.
Et alors, il y a aussi un texte qui est proposé en
alors, effectivement,
au dos,
alors,
et un texte alors, très important de
dont parlait Pascal Philippe Ramy. Philippe Ramy est un auteur de poésie, avant tout, un homme qui est décédé il y a très très peu, là, en octobre, et qui a une œuvre poétique chez Chêne Éditeur. Je crois qu'il y a deux ou trois recueils de poésie qui sont parus, dont deux chez Chêne Éditeur. Ensuite, trois romans. Qui sont parus, si ma mémoire est bonne. Et on lui a demandé pour notre almanach des Révolutions un texte. Alors, il venait de quitter les États-Unis après avoir travaillé longuement sur différents sujets qui l'intéressaient concernant l'Amérique. Ça s'intitule Pardon l'Amérique, qui paraîtra probablement l'année prochaine, c'est son éditeur. La table ronde, sauf erreur. Je vais juste vérifier.
Ah oui,
la table ronde. Et. Au lieu de l'inscrire dans le livre lui-même, nous avons décidé de faire un tiré à part, en quelque sorte, une deuxième publication, qui peut être vendue séparément, ou qui est tenue par ce qu'on appelle de la colle furtive, ce qui est collé au dos de notre almanach. Et cet ouvrage est très provocant.
Alors, je peux me permettre de lire la quatrième de couverture,
mais
je vous laisserai ensuite compléter la découverte. Voilà. Fin programmée de l'ordre néolibéral, je signale l'informatique, puissance effective au bénéfice de tous comme outil d'émancipation et les informaticiens architectes des infrastructures financières et industrielles et de l'écosystème social en toutes ses catégories en tant que nouvelle classe sociale. Pour la première fois dans l'histoire, grâce à des outils informatiques favorables aux pauvres et contraignants pour les riches, conçus selon une compréhension égalitaire de l'accès au capital au sens large, dont personne, ni les États, ni les banques, ni les marchés ne pourra davantage se passer demain qu'il ne s'en passe aujourd'hui, pour accaparer les richesses naturelles et produites et tirer profit de la spéculation, les acteurs actuels du néolibéralisme œuvreront au bien commun, redistribuant malgré eux une large part de cette immense fortune au développement constant de l'humanité. Donc là, c'est extrait du texte, j'imagine.
Oui, c'est un extrait.
Et donc, c'est un texte forcément...
Non, c'est un texte qui réfléchit effectivement à la révolution informatique, qui a quand même depuis un certain nombre d'années, depuis très longtemps, mais les flux financiers sont gérés par des algorithmes. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est la puissance des algorithmes, qui sont effectivement des créations humaines, d'informaticiens, au service du capital, c'est-à-dire au service de la création de la richesse et de l'accaparement des richesses par les riches, hors de toute sphère productive, qui tourne sur elle-même, comme une toupie. Et il se dit, les informaticiens sont au cœur même de ce système. C'est eux-mêmes qui vont peut-être pouvoir mener à bien une révolution. Donc nous sommes en plein dans un texte qui propose une utopie, et qui en même temps ne fait que provoquer la pensée sur... ouvre des questions et des champs d'interrogation importants. C'est un tout petit texte avec un certain nombre de propositions, mais il n'est pas le seul à le faire. Ils sont nombreux en Europe, en Occident et dans les pays du Sud et ailleurs à se poser ces questions-là et de voir de quelle manière la démocratie peut entrer en syntonie, si l'on peut dire, avec les systèmes qui sont des systèmes de gestion, de gérance des richesses qui fait fi de toute politique, et il s'agirait au fond de réinsérer les flux financiers dans le domaine de la politique et gérés par la politique plutôt que les flux financiers et l'accaparement des richesses gèrent et limitent les démocraties actuelles. Donc c'est un petit livre qui nous livre comme ça, juste au moment, deux jours, trois jours avant son décès, le livre est sorti et il nous provoque à penser autrement ce qui se passe dans le monde de l'informatique.
On peut préciser qu'il est bilingue puisqu'il a été traduit.
Alors, il est bilingue là, mais il a été traduit aussi en allemand et en espagnol. Et nous allons le publier sur Internet sous forme de livre numérique pour qu'il soit disponible dans les quatre langues français, allemand, espagnol et anglais.
Alors, pour clore l'entretien, puisqu'il y a plusieurs livres sur votre stand, j'avais pris celui-ci, donc La lessive.
Alors là, nous sommes à cheval avec La lessive de Judith Kiss, avec sous-titre et autres histoires de femmes migrantes. Nous sommes à cheval sur à la fois ce que j'appelais tout à l'heure les récits de vie, les témoignages, qui pour moi a une valeur littéraire, parce que c'est pas facile d'écrire un texte de témoignage qui rende compte de parcours de vie, voire de petits parcours de vie, ou d'une partie d'un parcours de vie. C'est un genre littéraire qui n'est pas très bien reconnu, mais qui est enseigné par exemple à l'Université de Fribourg, où je donne un petit cours chaque année avec d'autres éditeurs pour familiariser notre travail, exposer notre travail dans ce domaine. Alors cet ouvrage nous est parvenu d'une écrivaine et d'une économiste hongroise qui habite à Genève depuis une trentaine d'années. Elle maîtrise le français parlé, le français écrit d'une certaine manière, mais comme elle est écrivaine, elle a apporté aux 19 et quelques récits de cet ouvrage qui sont tous liés à des rencontres de femmes migrantes arrivées à Genève, du monde entier. Alors, en lieu de simplement nous restituer des récits de vie tels quels, elle a carrément transformé ces récits de vie à travers le prisme de genres littéraires très différents et très divers. Et c'est ça la gageure de cet ouvrage, c'est de donner un écrin littéraire à des récits de vie, à des témoignages, qui a demandé un gros travail avec l'auteur, parce que sa maîtrise du français n'était pas toujours au mieux, mais l'ambition du livre nous a tellement plu que nous avons pu travailler avec Isabelle Sbrissa et Nathalie Garbelli, qui ont assisté Judith Kiss dans la renaissance de ce ouvrage.
Alors, je me propose, pour quasiment clore l'entretien, de lire un petit extrait pioché au hasard dans l'ouvrage. « Sur les rives du lac Léman vit une femme avec ses deux enfants, sa mère et son oncle juste à côté. C'est une jolie femme, très gentille, qui parle doucement. Elle élève ses enfants, elle travaille, elle s'occupe du ménage. Elle a appris une nouvelle langue. Elle a appris à vivre avec un corps qui souffre souvent. Elle a réussi à refaire sa vie dans un pays si différent du sien. Elle a deux enfants qui ont grandi avec un vide à la place de leur père. Ils ne chercheront pas le bonheur au bord de la Drina. Sur les rives du lac Léman vivent des centaines de femmes qui se lèvent chaque jour et se couchent chaque soir avec le poids d'une perte irréparable, celle d'un fils, d'un mari, d'un père, d'un grand-père, d'un oncle ou d'amis. Certaines d'entre elles sont entourées de leur famille, d'autres ont trouvé de nouveaux amis, certaines ont rencontré un nouveau compagnon, quelques-unes ont même fait des enfants. D'autres se sont enfermées dans leur solitude. Elles s'occupent de leurs enfants, si elles ont la chance d'en avoir, parce qu'ils sont l'avenir, et elles s'occupent de leurs parents, si elles ont la chance d'en avoir, qui portent encore le passé. Le présent n'est qu'un trait d'union entre les deux. Parfois, elles se réunissent et s'installent dans un petit café au bord du lac Léman. Elles se racontent leur vie actuelle, évoquant rarement le passé. Elles échangent des nouvelles de leur famille, éparpillées aux quatre coins du monde, et parfois, mais c'est vraiment très rare, elle s'oublie en admirant la vue dégagée et elle dit très bas, qu'est-ce que c'est beau. Ben écoutez, merci à vous d'avoir pris ce petit temps
merci
pour vous faire découvrir vos activités.
Merci
et bonne fin de salon ici à Bienne.
Merci. Au revoir.